Dans son canton du Jura, qu'elle a vu naître et qui a reconnu son existence, Nicole Béguin a milité avec fluidité et optimisme, portée par la conviction que lorsque la cause est juste, on gagne. Son engagement se dessine comme la quête d'une communauté avec qui exister et partager. Un canton, une famille, juragais, quand il faut, il faut. Alors Nicole a toujours fait, sans se poser de questions.
De dire oui, ben oui, on peut être femme, puis plutôt comme ça, ou bien plutôt dire qu'on m'appelle il, mais je suis une femme. Enfin, moi, ça m'est assez étranger, puis c'est pas mon combat, entre guillemets. Mais je trouve que de bouleverser ça, ça donne de la liberté à tout le monde.
Elles ont façonné notre paysage militant roman. Ils ont été activistes, des petites mains, des acteurs politiques régionaux. Tous se sont battus pour un monde plus solidaire, inclusif, anticapitaliste, parfois il y a plusieurs décennies. Elles font partie des militants d'une autre génération, notre vieille garde. C'est celles qui ont ouvert une brèche dans des combats encore fondamentaux aujourd'hui. Quel est leur parcours militant? Quelles ont été leurs méthodes de lutte? Quel est leur regard sur les enjeux d'aujourd'hui? La vieille garde raconte.
Moi, je suis née à Puyi, au bord du lac, et avec mes parents, après, on a habité à La Chaux-de-Fonds. Et après quelques années, mon père a trouvé du travail à Delémont et on est venu, toute la famille, s'installer à Delémont. J'avais 5 ans. J'ai jamais vraiment quitté. Je suis parti quelques années travailler à Bâle et j'ai vécu à Bâle, mais sans ça, je suis toujours revenu vivre dans le Jura, à Delémont principalement.
Nicole Béguin grandit dans le Jura, dans un canton qui n'existe pas encore. Mais elle veut voir naître un canton à elle, avec sa culture, avec sa langue, bref, avec sa communauté.
Ses premiers contacts à la politique, je suis très jeune, hein. Je suis né en 57, alors j'ai pas participé directement, mais c'était vraiment dans l'air du temps. On en discutait, on apprenait absolument pas l'allemand à l'école parce qu'on trouvait que c'était une langue affreuse, c'est la langue des Bernois. J'ai pas mal baigné dans cette ambiance de Jura libre, de faire un canton, d'être enfin libre, d'avoir des plaques JU puis pas BE. Mais j'ai pas participé activement. J'ai été à les fêtes du peuple. J'ai suivi des cortèges. J'ai regardé des gens qui portaient des grands bouts de bois. C'était les béliers. J'avais un t-shirt. C'était plutôt une ambiance générale. On parlait de ça. On parlait du canton du Jura. On parlait que ce serait vraiment formidable si on pouvait avoir un canton à nous. Mais j'avais pas une grande culture de fêtes historiques, de journaux, de comment ça allait se passer. Non. C'était pour moi important d'avoir un canton francophone, essentiellement. Après, il y avait aussi des histoires de religion, mais moi, ça me touchait pas. L'histoire des catholiques, des protestants, moi, j'étais pas touché par ça, mais c'était plutôt de dire, oui, on veut un canton francophone, oui, le grand méchant, c'est Berne, c'était ça, c'était David contre Goliath, quoi. Un peu, dans l'imagination. Mais sans beaucoup de connaissances historiques de ma part, vraiment, à l'époque. Non. C'était pas vraiment un engagement, comme je disais, c'était vraiment l'air du temps. On était séparatistes, même si à 14-15 ans, on faisait pas grand-chose, on allait dans les manifs. C'était plus un mouvement d'énergie, comme je le vivais. Mais comme j'ai dit avant, j'avais pas des grandes bases historiques, je suivais pas toutes les tractations, les pour, les contre, ceux qui souhaitaient un Jura à 7 districts, puis pas qu'à 3. J'ai découvert ça après. Pour moi, c'était un mouvement, une énergie.
Même si elle ne comprend pas tous les enjeux, elle voit en 1974 son désir se réaliser. Lors du plébiscite qui crée le 26e canton suisse, Nicole commence son parcours militant par une victoire du petit contre le gros.
Ben, je suis hyper contente. C'est vraiment... C'est David contre Goliath, c'est le petit qui gagne. Et puis après, ben, il s'ensuit une nuit blanche, c'est la première nuit blanche que j'ai faite. Tout le monde était dehors, il y avait des fontaines, les gens sautaient dans la fontaine. Donc il y avait cette histoire de vraiment gagner, ce sentiment de « on peut changer les choses, on peut gagner même si, entre guillemets, on est moins fort et moins nombreux ». C'est peut-être exaltant, mais c'est aussi de se dire, non, c'est même pas de se dire, c'est « bah oui, on peut changer les choses et puis ça veut continuer, on va gagner tout le temps ». Donc c'est plutôt, plus que l'exaltation, c'est une espèce d'optimisme, de se dire, ben oui, on peut changer les choses, là on a gagné, ça veut continuer. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça, de se dire, on peut gagner, tout ce qu'on va entreprendre, ça veut marcher. Donc c'est une forme d'optimisme.
À cette époque, l'air du temps est toujours à la lutte. Nicole, portée par son optimisme, s'engage dans de nouveaux combats. Mais même si ces combats sont pour elle justes et importants, elle s'y sent décalée. Elle ne parvient pas à y trouver sa communauté.
C'est de nouveau une histoire qui est en marche. Hein. Avec ça, il y a aussi justement les mouvements féministes qui se développent. Et puis je suis ça de près, je vais à certaines rencontres, à certaines manifs. C'est de nouveau dans la même optique, ça. Il va arriver quelque chose de bien. On est beaucoup, on a raison, ça veut changer. Mais quand j'allais aux réunions, je trouvais qu'il y avait un décalage. Je me sentais pas dans une forme d'appartenance au groupe. Donc je soutenais les causes, j'allais rencontrer des autres femmes, j'écoutais ce qu'elles disaient, mais pour moi il y avait une forme de décalage. Et puis mon décalage, il était par rapport à mon homosexualité, parce qu'à l'époque, dans les mots féminisme régionaux, hein, j'entends bien, c'est une petite ville de Léman, le canton du Jura est petit, dans ces mouvements-là, l'homosexualité n'est pas prise en question, de loin pas. Donc je me sentais toujours un peu étrangère. C'est pas qu'il y avait du rejet, c'est pas du tout ça, mais ça n'existait pas. Et aussi dans d'autres partis politiques où j'étais, là aussi je trouvais que pour moi il y avait pas une appartenance complète au groupe. Même si justement je partageais des idées, c'était un petit parti plutôt d'extrême gauche. Les gens qui avaient fondé ce parti, c'était des copains, des amis. Donc j'étais dans ce mouvement, mais il y avait toujours pour moi un décalage. Il y avait quelque chose qui n'était pas pris en compte. Mais j'ai jamais demandé qu'on le prenne en compte. C'était pas, il n'y avait pas une résistance. C'était pas ça. Mais c'était pas un sujet.
Ce n'est pas que Nicole doit se cacher. Bien au contraire. Elle vit ouvertement sa vie de mère de famille homoparentale. Mais elle cherche un endroit où partager son vécu. Cette communauté qu'elle cherche, c'est une catastrophe qui va commencer à la faire exister.
Il y a eu quand même, pour moi, un déclic avec l'épidémie du sida.
Bonsoir. 800 malades du sida en Suisse environ. C'est-à-dire qu'avec plus de 100 cas par million d'habitants, notre pays se place en tête de la statistique européenne.
Dans les années 80, enfin c'est plus tard, 83, 85, là il y a quand même une prise de conscience pour moi d'une communauté bien sûr plus masculine, c'est clair, elle était plus touchée par le sida. Et puis il y a pour moi une forme de communauté qui voit le jour là. Il y a aussi des manifs, je vais voir des patchworks qui étaient faits par rapport aux personnes qui étaient décédées du HIV. Il y avait toutes les photos qu'on voyait, il y avait tous les interviews aussi de couples où c'était compliqué si un des deux mourait. Enfin, il y a toute une thématique avec l'arrivée du sida qui pour moi m'a fait entrer dans une forme de communauté, même si les femmes étaient moins touchées. Donc de solidarité. Donc je vivais avec ma compagne de l'époque, donc d'une façon très visible à Delémont. Donc on n'était pas cachés. Les amis, la famille savaient ce qu'on vivait. Donc ça se passait assez bien. J'assume assez bien ça. Enfin, je me cache pas. Mais il n'y a pas forcément de militantisme. Et puis à cette époque-là, ben je rencontre pas beaucoup non plus de personnes de la communauté LGBT. Non, je les rencontre pas. Je les connais pas. Donc il y avait pas forcément une appartenance à un groupe ou des choses qui allaient se faire. J'ai jamais eu l'impression qu'il a fallu se battre. Je pense que c'était aussi du fait de notre attitude. Alors quand il y a des enfants, ben c'est clair que là on est d'autant plus visible, d'autant plus on déclare que on est deux mères, il y a deux enfants, donc il y a une structure familiale qui est formée. Donc là, c'est vraiment le coming out complet par rapport aussi à l'école, aux enfants. C'est encore plus transparent. Il n'y a plus de faux fuyants, plus du tout. Plus du tout. Surtout par rapport aussi aux enfants. Il y a une forme de loyauté par rapport à eux. On ne va pas se cacher, quoi. Depuis qu'ils sont arrivés, ça a toujours été très clair. Après, moi, j'ai toujours l'impression qu'il me manque un petit quelque chose, quoi. Il me manquait des contacts, il me manquait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivaient un peu la même chose que moi, se retrouver une communauté. Et ça me manquait. Mais si on prend un camembert, c'était un petit manque, parce que le reste était bien rempli par le quotidien. Alors, je l'ai retrouvé en 1999, quand Juragay a été créé. Et puis, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important, de rencontrer d'autres personnes qui vivaient un peu les mêmes choses que moi, de former une communauté. Et puis, quand il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient à Juragué, j'étais contente, je les trouvais toutes gentilles, c'était super. Donc, il y avait vraiment pour moi la création d'un réseau, d'un groupe, de plus être seul.
Une création qui se fera d'une manière qui lui ressemble, fluide et optimiste. On fait parce qu'il faut faire, et comme c'est bien, ça se fera.
Il y avait le journal 360 qui a publié un article en disant que le Jura avait son association, que c'était la dernière association romande. Tous les autres cantons avaient une association cantonale et le canton du Jura pas. Et je vois cet article et je me dis, waouh, super, vraiment, j'étais très contente. Et je téléphone au numéro, c'est un numéro genevois. Voilà, et il y a quelqu'un qui me répond au bout du fil, qui s'appelle Yves de Mathéis, et puis voilà, je dis, mais c'est super, qu'est-ce que vous faites? Puis il me dit, oh, ben, ça n'a pas été tellement créé, parce que les personnes qui devaient créer cette association se sont désistées, ne sont pas intéressées pour l'instant. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Puis j'ai dit, ouais, bon, je n'étais pas très, 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 très partante, dans la mesure où je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai dit, ok, ben, moi, je suis d'accord d'être là pour la création, il fallait qu'on soit trois personnes. Moi, je suis d'accord pour la création du Juragué, mais je vais pas tellement m'appliquer. Non, non, pas de problème, il m'a dit. Okay. On s'est rencontrés à la gare, à Delémont, il est venu. Il avait pris les statuts d'autres associations qu'il avait découpées avec des ciseaux, j'ai encore. On a fait un patchwork. Et puis une troisième personne qui est venue, qui n'était pas du tout gay, qui était là aussi pour faire la troisième personne, qui travaillait à l'époque au centre de toxicomanie, ça avait un autre nom, à Delémont, où on allait dans leurs locaux. Donc on a fait cette association, et puis le lendemain ou le surlendemain, il y avait un article dans la presse, voilà, Juragué est né. Donc ça c'était la personne de Genève qui avait vraiment fait un bon travail d'information. Et après, il y a eu d'autres personnes qui sont venues pendant quelques temps, on n'a été que deux. Et très rapidement, 2-3 ans après, d'autres personnes nous ont rejointes, et puis il y a pas mal de personnes du comité qui sont là depuis une vingtaine d'années. Mais finalement, j'y suis toujours. J'ai fait presque 25 ans. Donc, oui, j'ai continué avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Et puis, comme j'ai dit, de créer un réseau, de pouvoir participer à des prides, d'être au courant de ce qui se passait dans d'autres cantons. Il y avait vraiment là une entrée pour moi dans une communauté. C'était ça, oui. Non, c'était le top, quoi. J'ai beaucoup aimé.
Il n'y a pas de grand plan ou de grande révolution. Juste le besoin essentiel de se rencontrer, d'échanger et de faire communauté.
À l'époque, on n'avait pas de local. Donc, c'était se rencontrer, partager un café ou bien manger ensemble. C'était essentiellement se rencontrer. Et puis, en espérant toujours qu'il y ait beaucoup de monde. Hein. Donc, comme j'ai dit avant, chaque personne qui venait, on était hyper contente que cette nouvelle personne soit. C'était vraiment rencontre, échange. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait aussi, je pense, des actions un peu de visibilité, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes avant la création du Juragué visible. Dans le canton du Jura, on n'a jamais eu de stratégie. C'était vraiment aussi porté par l'air du temps, par ce qui se passait dans les autres cantons. Et puis, je pense qu'il y avait deux fils rouges. Donc, dans le comité de Juragué, c'est Régis qui dit souvent « on n'a pas choisi ». Ça, c'est un de ses fils rouges. À lui, c'est un membre du comité qui a depuis très longtemps, Régis. Puis il dit « on n'a pas choisi, c'est pas un choix ». Et puis, l'autre fil rouge, c'est de dire « on va rencontrer les gens, on va être visible, on va entrer en contact parce qu'on est persuadé que en petit comité ou une personne avec une autre personne, ça passe. Il y a toujours des choses qui nous relient. Et ça, je pense que dans une petite région, c'est encore plus nécessaire parce qu'on n'a pas une grande communauté LGBT ou une grande communauté d'autres choses également. Ça veut dire qu'il y a de toute façon des interactions, des rencontres qui se font. Donc c'était vraiment ça. On n'a pas choisi et on va à la rencontre de l'autre. Donc l'autre va aussi nous rencontrer.
Et les rencontres se passent plutôt bien, même s'il reste toujours des esprits chagrins.
Les gens réagissent assez bien, mais je pense que les détracteurs, ils viennent pas forcément discuter avec nous. Il y a, quand on tient des stands, il y a toujours quelques personnes qui sont un peu zinzin. Mais c'est de loin pas la majorité. Un peu des provocateurs ou des gens qui sont très, très versés dans l'église traditionnelle, qui peuvent nous faire des remarques, mais c'est vraiment anecdotique, c'est peu, c'est vraiment peu. On peut contourner notre stand, ça nous est arrivé. Si on avait des stands plus dans le slow-up, ça c'est un peu plus récent, où on tient un stand et puis les gens ils peuvent venir boire un verre, ben ils s'arrêtent pas forcément là, quoi. Ils vont plutôt à côté. Mais ça change. Ça change. La contestation qu'il y a eu, c'est lors de la Pride en 2003, un groupe évangéliste, voilà, a réservé une salle à Delémont pour faire une fête des familles. Donc la Pride à Delémont, ça se passait en vieille ville en 2003, ça c'était assez pour Delémont, c'était quand même un événement, et ce groupe a décidé de faire une fête des familles. De l'autre côté des voies, en louant une salle, et là le maire de l'époque, c'était Monsieur Perrin la Gentille, n'a pas accepté qu'il loue une salle pour éviter la confrontation. Alors ils ont loué une salle à Glovelier, c'est un village à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc là il y avait une forme, pas d'affrontement direct, de loin pas, mais de dire ben parallèlement à cette Pride, on fait une fête des familles. Donc c'est toujours un peu là que ça se passe. Hein. C'est comme si on était contre les familles. Voilà.
Si aucune contre-manifestation à la Pride n'a perturbé le défilé, plusieurs groupes religieux ont organisé en parallèle, dans le village voisin de Glovelier, une journée sur le thème des valeurs familiales.
Si la famille jouait réellement son rôle, il n'y aurait pas de gay Pride, parce qu'il n'y aurait pas de gay. Donc, voilà.
C'est un milieu catholique assez extrême, quoi.
Une attaque qui concerne particulièrement Nicole, qui a fondé une famille. Mais ce n'est pas ce qui la dérange le plus.
J'ai jamais été tellement touchée, parce que je me dis, mais quels sont leurs rouages pour arriver à cette constatation? Parce que je sais que les familles sont diverses, que ça se passe différemment. Et puis la même chose dans toutes les familles, que le lien est plus important que des théories. Que... Non, j'ai jamais été touché dans là-dedans. Je me sens assez sûr de ça. Moi, c'est un peu les rouages des opposants que je trouve un peu, voilà, un peu bête, un peu bête. Et surtout, moi, je trouve qu'ils pourraient avoir l'honnêteté, une certaine honnêteté, de dire, ben moi, je supporte pas ça pour X raisons. Voilà, je supporte pas. Mais pas aller chercher des arguments d'église ou de famille ou de pédophilie. Ou... Je trouve qu'ils manquent d'honnêteté. Moi, je suis prêt à les respecter. Mais pas avec des arguments bateaux. Mais ça continue, hein, toujours les mêmes. Pour le mariage pour toutes et tous, c'est la même chose. Hein. Je ne vois qu'il veut pouvoir épouser son poisson, mais il se fiche de nous, quoi. Non, mais il se fiche de nous. Il y a sûrement chez eux une fragilité, une instabilité, une peur, quoi. D'avoir peur comme ça. Puis arrêter de se réfugier derrière des lectures de la Bible ou des machins, voilà.
Cette Pride de 2003, la première du Jura, qui fait-on peur à ces esprits chagrins? Elle est pourtant organisée par des amateurs, pleins d'optimisme et de bonne volonté. Alors ils ont fait, sans trop se poser de questions, ce qui devait être fait.
Chaque année était dans un canton roman différent et on avait deux fois par année des réunions interassociatives de tous les cantons romans. Puis on a été là, on était deux de Juraguet, et puis tout à coup ils ont dit bah c'est le tour du Jura. Et puis on a réfléchi, on était deux, et puis on a dit bah ouais. Et puis nous ont applaudi, puis on était contents, puis on a dit bah on est rentré, puis on a dit bah on la fera quoi. C'était vraiment aussi vraiment un peu, on n'est pas préparé, c'était vraiment spontané. Moi dans ma tête je me suis dit oh ils sont gentils, c'est notre tour, ils nous soutiennent, ils nous applaudissent quand on dit oui. Donc allons-y. C'était vraiment ça. Alors dans un premier temps, on s'est dit faut qu'on réunisse des personnes pour faire un comité. On a fait des séances où il y avait 20 personnes, toujours un peu organisées par Juraguet. Puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés 6-7, donc principalement les membres du comité, plus de 3 personnes. On a été aidés aussi par quelqu'un de Genève qui venait régulièrement aussi, c'était peu pour l'aspect politique. On avait une personne qui recherchait des fonds, qui faisait partie de Juraguet. La femme qui récoltait l'argent, elle les lâchait pas, elle faisait tous les bistrots, elle était très tenace. Et puis on avait un dans le comité qui avait déjà organisé des manifestations, qui était un zinzin de la planification et puis des tableaux Excel, donc il nous a beaucoup aidés. Il nous a mis des échéances, mais on n'en voulait pas. Mais il s'appelait Mathieu. Et puis, lui nous a aidés parce qu'il avait une vue d'ensemble. Nous, on n'avait pas de vue d'ensemble.
Organisée par une petite équipe motivée et sans expérience, la Pride 2003 de Delémont agrégera des soutiens de communautés jurassiennes les plus variées. Le groupe scout aide à organiser le camping. Un groupe paysan de la région sert le petit déjeuner. Les écoles d'art régionales réalisent des affiches. Et plus de 10 000 participants et participantes défilent dans les rues de la capitale jurassienne.
Oui, puis ça a bien marché. Bon, il y avait du monde, tout ça. Et puis, bon, pour les personnes qui ont participé, ça reste pour nous une pride assez, assez magique pour nous. C'est vraiment, je pense, dans l'histoire de Juragué et puis des membres qui étaient là, ça reste une belle expérience dans notre vie. L'année passée, c'était les 20 ans. On s'est repassé un peu des photos, on a regardé les coupures de presse. Ça reste une, quelque chose avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Moi, je commence le cortège, parce qu'il y a un cortège qui se fait. J'ai un appareil de photo parce que voilà, je suis une zinzin de photo. Et puis je commence, je fais 10 mètres et je ne me souviens plus jusqu'à la fin du cortège. Je suis complètement dynamité, je ne sais pas. Je me souviens plus. J'ai juste, en passant à l'arrivée du cortège, moi, mes parents qui sont assis sur un muret. Et puis là, je leur dis voilà, bonjour. Je savais qu'ils seraient là. Puis là, je reviens à moi. Mais moi, j'ai un blanc de 40 minutes, là. C'était trop. Et voilà, j'ai une photo, là, où j'ai l'air complètement allumé. Enfin, tout ça pour dire que les personnes qui ont vécu ça, moi, j'ai eu de la chance de vivre, quoi, vraiment. Et les autres personnes aussi. Alors, le thème de cette trail, c'était faire connaissance. C'était l'idée, les personnes vont nous voir, on va défiler, on va faire connaissance, quoi. Et on jouait avec le faire connaissance qui peut faire reconnaissance. Donc c'était, je pense que c'était notre fil rouge, c'était les personnes vont faire connaissance avec nous et nous on va faire connaissance avec eux.
Paris réussi, tout le canton semble les accueillir, notamment les autorités locales, plutôt soutenantes. Le maire de la ville ne cache pas sa compréhension plus forte envers la minorité homosexuelle qu'envers les traditionalistes.
Oui, oui, on a été justement soutenu par le maire de l'époque, qui était M. Pirana Gentil, qui est décédé maintenant. Il nous a beaucoup soutenus. Il y avait le commissaire aussi qui participait aux séances parce qu'ils avaient peur d'attaques de skinhead ou bien de... il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça va être un avantage, hein, mais il y avait eu des signaux, je sais pas quoi, que des skinheads allaient venir. Il y avait aussi une peur, ils avaient entendu des bruits que les agriculteurs viendraient pour jeter du purin sur le trajet. Donc le commissaire, on a eu des séances avec lui, il nous a bien soutenus, il n'y a rien eu de spécial. Hein. Mais c'est clair, la commune a eu ce courage-là de nous soutenir en 2003.
Mais la véritable reconnaissance vient avec le discours du maire de Delémont et de la ministre, future conseillère fédérale, Elisabeth Baumschneider. Nicole se voit reconnue par son canton justement sur la place où, pour elle, en 1974, il est né.
Ah ben c'était essentiel. Quand les deux personnes disent « oui, je suis d'accord pour faire un discours », pour moi, c'est vraiment un cadeau, quoi, vraiment. Et c'est à l'hôtel de ville, c'est aussi une place qui est aussi symbolique par rapport à la création du canton, devant la place de l'hôtel de ville. Donc, on a la place officielle, où il se passe des choses à Delémont, avec des officiels qui sont là. Donc, c'est une reconnaissance qui est à 100%, vraiment. Ça m'a marqué de dire « je suis chez moi ». Hein, je suis chez moi et je suis reconnu en tant que tel. C'est la place, c'est comme j'ai dit les officiels, c'est les gens qui écoutent les discours, je fais un discours, je présente d'une façon générale, j'ai été très visible sur cette organisation, donc c'est vraiment pour moi une reconnaissance, c'est mon coin qui me reconnaît, qui me donne une légitimité. Ouais. Et puis j'ai mes deux enfants qui écoutent les discours, donc émotionnellement il y a beaucoup de choses, quoi. Mes parents qui sont là aussi, non, c'est vraiment un super cadeau.
Reconnu, pas toléré, pour Nicole c'est important. Le mot d'ordre de la Pride, ce n'est pas la tolérance.
Le mot tolérance me dérange, moi. C'est quand on me dit, ouais, moi je suis tolérant, je m'énerve un petit peu. Parce que moi quand je suis tolérante, c'est pas terrible, ça veut pas dire que je respecte l'autre. Ça veut pas dire qu'il m'énerve pas quand je me dis, bah ouais, je le tolère. Allez, c'est limite, quoi. Je peux pas faire moins que le tolérer. Si j'ai un voisin qui fait beaucoup de bruit, ce qui n'est pas le cas, je dirais, ouais, bon, d'accord, il fait du bruit le samedi, dimanche, je le tolère. Eh ben non. Ça veut dire que c'est la tolérance, pour moi, c'est le minimum qu'on peut faire face à l'autre quand on n'est pas d'accord. Je voulais du respect, une forme de compréhension et surtout un dialogue. Ouais, de dialoguer, d'échanger, puis de faire connaissance, quoi.
La réussite de cette Pride, la création de Juragué, on voudrait savoir quel est le secret du succès insolent de Nicole.
Une forme quand même maintenant, au bout de 25 ans, une forme de solidité du mouvement, d'une association où c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'on fait pas des grands débats, on n'a pas de conflits, je parle du comité, on arrive bien à s'organiser. Donc il y a une forme de fluidité là. de confiance. C'est facile, c'est fluide, c'est...
C'est comme de l'eau. Et pour Nicole, cela a son importance. Car lorsqu'on lui demande quelle est sa boisson de militante, elle ne répond ni le café pour tenir les séances interminables, ni la bière pour célébrer les victoires.
C'est l'eau, parce que j'aime beaucoup cet élément, et puis je trouve qu'à boire, c'est très agréable. Et quand on a vraiment soif, un verre d'eau, c'est le top. C'est la fluidité, c'est aussi le fait que ça englobe tout, ça prend la forme de l'objet, ça prend la forme du corps, et c'est fluide.
Mais le secret de cette fluidité, Nicole a de la peine à nous le livrer.
Bon, je sais pas si c'est... d'être au bon moment, à la bonne place, un peu. Il y a des énergies, il y a des choses qui ont été faites avant qui fait que c'est possible. Et il y a aussi, je pense, ne pas se prendre la tête, je pense. Ne pas... Mon moteur, c'est vraiment la rencontre, faire quelque chose ensemble. J'ai pas un moteur de militantisme pour me profiler, pour avoir un rôle. Dans mon rôle de militantisme, je me sens très libre. Bon, puis en plus, maintenant, je suis plus vieille, mais j'ai rien à prouver, j'ai juste à être là, à soutenir ce qui me semble bien pour moi. Et puis, quand je sens quelque chose à faire, je le fais.
Et Nicole ne se voyait pas faire autrement.
Je ferais quoi si je militais pas? Toi, je sais pas. C'est une boutade, mais c'est vraiment rester dans le mouvement, dans la vie, d'être curieuse, de voir ce qui se passe, et puis de donner un sens quand même. Un sens quand même à notre vie, à ma vie, un sens, ouais. D'essayer d'avoir une action qui est plutôt positive sur ce qui se passe, et d'être présente pour pouvoir aider, voilà. Maintenant, je continue plus justement avec des actions plutôt, avec des requérants, je donne des cours de français. Mais c'est un peu la même chose, il n'y a pas de théorie. J'y vais parce qu'il y a un échange, parce qu'il y a une raison de le faire.
Et finalement, si aujourd'hui elle prend du recul, elle a fait ce qui lui correspondait.
Je pense que le recul, il n'est pas forcément dû à mon histoire à Juraguet. Le recul, il est aussi par rapport à mon âge. Je pense que ça influence aussi un peu toutes mes activités. Le recul avec l'âge, il est presque nécessaire. Puis je trouve que c'est une bonne chose. C'est de voir les choses plus larges. C'est de relativiser certaines choses. C'est, comme je disais avant, ne pas se prendre au sérieux. De se dire, on est là, à ce moment-là. Il y a des choses que j'ai vécues qui sont vraiment, vraiment très belles, qui me constituent, qui sont moi.
Aujourd'hui, elle voit les luttes évoluer et une nouvelle génération de militants et de militantes arriver.
Je les vois arriver avec émotion. Je suis très contente de les voir arriver. Je trouve qu'ils sont, une belle énergie, qu'ils sont peut-être un peu moins enfermés dans certains rôles vestimentaires ou des rôles de genre, puisque le thème, c'est un peu le gender fluide pour les jeunes actuellement. Moi, je les vois arriver avec une belle énergie, avec quelque chose de vivant, avec des envies de transformer des codes, et puis avec une vie à construire. Ouais, c'est comme ça que je les vois. Mais ils sont ouverts, c'est une génération. Je parle des militants, des jeunes que j'ai rencontrés ou des jeunes que je côtoie. Je trouve qu'ils nous libèrent de certains rôles définis par nos genres. Je me compte aussi là-dessus, même si je suis lesbienne, de dire oui, on peut être femme, puis plutôt comme ça, ou bien plutôt dire qu'on m'appelle il, mais je suis une femme. Enfin, moi, ça m'est assez étranger, puis c'est pas mon combat, entre guillemets. Mais je trouve que de bouleverser ça, ça donne de la liberté à tout le monde. Donc je suis contente qu'il soit là.
Elle qui a vu ses luttes couronnées de succès, qui a vu David terrasser plusieurs fois Goliath, voit le changement de génération avec cet optimisme qui semble la caractériser.
Je ne sais pas si ça va vers le mieux. Oui, j'espère que ça va vers le mieux. Parce que l'autre expression que j'aime pas du tout, c'était mieux avant. Alors moi, tolérance, j'aime pas. C'était mieux avant, j'aime pas non plus. Oui, c'est des choses positives qui vont se passer. J'espère toujours que ça va vers quelque chose de positif. Après, il y a toujours des excès, il y a toujours des forces contre. Ça, tout changement, ça crée des tensions. Donc c'est bien les changements, mais il y a des tensions, il y a des choses à remettre en question. Je pense que cette génération, elle sera remise en question par une autre génération dans 10-15 ans qui leur dira « on s'en fiche de ça ». Je trouve que c'est un mouvement qui n'arrête jamais. J'espère que c'est pour le positif. J'espère. Mais je sais pas. 3, 4.
Ce
ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ça bouge. Je sais qu'ils communiquent, alors certainement d'une autre façon que je communiquais, qu'ils ont envie de changement, qu'ils ont envie aussi de... Ça reste de rencontres avec des autres, de beaux moments, de faire améliorer la société, de... Par rapport à leurs valeurs, faire changer des choses. Moi, je pense que ça reste. Mais leur mode, je ne le connais pas. Je ne connais pas leur mode de communication, de rencontre. Si j'avais 20 ans, ben, je le saurais. On peut accompagner, mais en étant toujours un petit peu derrière, si c'est demandé. Mais il n'y a pas de règle. C'est bien comme ça. Il n'y a pas de leçon à donner. Il n'y a jamais de leçon à donner.
Quand on demande à Nicole ce qu'elle dirait alors à cette nouvelle génération si elle pouvait les rencontrer, échanger et faire communauté, elle donne une réponse claire.
Ben, je vous passe le flambeau, allez-y quoi. Allez-y avec tout votre cœur, votre émotion, avec vos réflexions, puis allez-y quoi. On vit probablement qu'une fois, donc pas de peur, allez. Et puis défendez ce que vous croyez juste, sans taper sur l'autre. Faut faire, ouais, faut faire. Vivre. Vivre, partager et faire, ouais.
La vieille garde.
Un machin audio.
De François Clément.
Estelle Panatier.
Et toute l'équipe technique et subsistance.